Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h15, le petit déjeuner présidentiel ce matin, c'est Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière et candidate à l'élection présidentielle.
Oui, bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Quel est le sens de votre candidature, votre secret pour avoir les parrainages alors que d'autres galèrent, la gauche aujourd'hui, la France à droite, l'attente autour de Macron, la fin du pass vaccinal et bien d'autres questions d'actualité que nous allons aborder, et les auditeurs qui pourront d'ailleurs vous interroger directement dans une demi-heure avec nos éditorialistes puisque vous êtes avec nous pendant au moins une heure. Alors commençons quand même par la course contre la montre pour les parrainages. Mélenchon, Le Pen, Zemmour et Taubira n'ont toujours pas leur signature. Vous, vous avez les promesses. Comment avez-vous réussi ?
Écoutez, voilà, c'est un effort militant. C'est un effort militant de plusieurs mois. Et fort heureusement, il y a des maires de petites communes qui sont attachées au pluralisme, vraiment, et qui, voilà, qui n'acceptent pas que la vie politique soit monopolisée, finalement, par des politiciens professionnels qui viennent du sérail, et puis, voilà, par des partis qui sont installés, qui sont habitués, finalement, à gouverner. Voilà, ils n'acceptent pas ça. Il trouve pas forcément normal non plus qu'il y ait des candidats qui soient choisis par la grande bourgeoisie. Hein. Voilà, quand même, il y a un candidat, le candidat de Bolloré, tout le monde le sait, c'est Zemmour, il a été choisi. Bon, bah voilà, eux, ils
veulent d'autres représentations, quoi.
Et ils ont à cœur, y compris qu'un courant comme le nôtre puisse se faire entendre. D'ailleurs, vous savez, beaucoup de maires de petites communes sont eux-mêmes issus des classes populaires. Hein. Il y a beaucoup de salariés qui sont maires de petites communes, beaucoup d'anciens techniciens, ouvriers, il y a des aides à domicile, il y a des enseignants. Enfin bon, voilà, ce sont des hommes et des femmes des classes populaires et ils trouvent tout à fait légitime qu'une voix qui porte les intérêts du monde du travail, comme la nôtre, puisse les faire entendre.
Et ce serait une faute démocratique si justement des candidats qui sont bien positionnés aussi dans les sondages n'avaient pas leur signature ?
Moi je crois, oui, mais vous savez, nous ce système des parrainages, nous le dénonçons depuis toujours, voilà, parce qu'en fait il a été justement choisi, il a été mis en place pour, encore une fois, verrouiller. Vraiment verrouiller la vie politique de façon à ce que seuls les partis installés puissent finalement se passer le relais en quelque sorte. Hein. Donc moi je ne suis absolument pas pour que un tel ou un tel puisse être empêché
de défendre ses idées. Donc vous invitez tous les maires aussi à offrir leur parrainage, un peu comme d'ailleurs David Lisnard, le président des maires de France, qui dit moi je vais donner mon parrainage à Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas du même bord, mais je lui donne, quoi.
Alors moi, d'abord, je tiens à dire que j'ai quand même zéro inquiétude. Hein. Zéro inquiétude que Jean-Luc Mélenchon ou Madame Le Pen ou même Monsieur Zemmour aient ses signatures. Zéro inquiétude parce que...
Ah bon, mais il y a du bluff alors ?
Mais parce que d'abord, vous avez entendu comme moi que de toute façon, M. Bayrou était là et allait de toute façon leur faire la courte échelle. Hein, parce que justement, là, en l'occurrence, on parle quand même de candidats qui sont présélectionnés en quelque sorte et que tout le monde considère légitimes, n'est-ce pas ? Donc voilà, moi, je n'ai quand même pas d'inquiétude. Le système, il est bien fait. Et s'ils n'arrivent pas à passer cet obstacle-là, ben écoutez, ils seront aidés en réalité.
Voilà. Pourquoi vous avez dit que Éric Zemmour, c'était le candidat de la grande bourgeoisie?
Parce que tout le monde le sait, il a été choisi par Bolloré en personne. Il a eu effectivement, on lui a servi sur un plateau des heures et des heures et des heures d'antenne où il a pu commencer sa campagne depuis déjà plusieurs années.
Oui, mais il aurait très bien pu échouer.
Il aurait pu échouer.
Si on lui offre de l'antenne, il peut très bien ne pas séduire non plus aussi, quoi. Donc c'est qu'il est en adhésion aussi peut-être avec un discours qui est attendu, non ?
De toute façon, il y a un fond d'air très très réactionnaire. Hein. Mais ça, je crois que c'est très lié aussi à la crise économique. C'est lié à ce chômage, à cette précarité, à cette angoisse de l'avenir qui a saisi, une bonne partie de la population, qui d'ailleurs ne se voit voit pas en capacité finalement de se battre hein, pour demander des comptes aux véritables responsables. Parce que pour moi, les véritables responsables, ils sont du côté précisément de ceux qui confisquent aujourd'hui toutes les richesses et qui gagnent des...
Alors c'est qui aujourd'hui
des mille et des cents. Oui. Écoutez, on a vu ces profits incroyables, faramineux. Vous avez vu quand même que le CAC 40 là avait réalisé 137 milliards de profits, que les dividendes avaient augmenté de 15%. Vous connaissez un seul salaire qui a augmenté de 15%? Ah si, peut-être les salaires de certains PDG. Ok, d'accord. Mais les salaires, quand on parle des ouvriers, quand on parle des techniciens, quand on parle des aides-soignantes, vous en connaissez, vous, un salaire qui a augmenté de 15%? Non. Donc, on voit qu'il y a
les
effectivement les grands
ont eu
actionnaires.
Des revalorisations pour les aides-soignants, pour les professions de la santé. Il y a eu des revalorisations.
Oui, mais c'est surtout des rattrapages. Des rattrapages, justement, qui n'ont pas été faits depuis, je dirais, une dizaine d'années. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des grands actionnaires qui, effectivement, se gavent sur le travail de l'ensemble de la population laborieuse. Tout le problème vient de là. Mais qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? C'est que les uns ou les autres vont chercher des boucs émissaires. Voilà. Donc, moi, cette politique-là de l'extrême droite, derrière laquelle la droite court, hein, d'ailleurs, ben, je la dénonce, je la combat.
Ouais. Fabien Roussel, dans l'actualité, là, est suspecté d'avoir été rémunéré il y a quelques années en tant que collaborateur parlementaire d'un député sans avoir des preuves de ce travail. Quelle est votre réaction?
Ma réaction, c'est que vous lui demanderez ce qu'il en est. Voilà. Ouais. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est justement dans cette campagne de faire entendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Et ça, je peux vous dire qu'il y a des milliers de diversions dans cette campagne qui font que jamais on parle de la question essentielle des salaires, du pouvoir d'achat, des petites retraites, de la précarité et du chômage. Parce que ça reste un fléau.
Vos concurrents de gauche en parlent quand même, non ? Non, vos concurrents de gauche en parlent tout de même. Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel également, à ce micro, il était là il y a quelques jours, il en parlait, quoi. Et d'autres, non ?
Certes, beaucoup en parlent. Bon, moi, j'aimerais aussi pouvoir justement mettre en avant les perspectives, la politique que je porte vis-à-vis de ça. Parce que elle est différente.
En quoi elle est différente, alors ?
Elle est différente dans le sens où, moi, je dis clairement qu'il va falloir prendre sur les profits. Il faut prendre sur ses richesses. Et il ne faut pas avoir peur de dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir tout cet argent aspirer à un pôle. Et il faut réaliser que ces milliards, ce sont nous qui les produisons, qui les fabriquons. Ils devraient revenir en salaire, en emploi, en amélioration des conditions de travail. Parce qu'il n'y a pas que, d'ailleurs, la question des salaires, mais c'est aussi la question des conditions de travail. Les cadences, elles sont devenues infernales. Infernales. C'est des rythmes de travail qui sont délirants. D'ailleurs, tous ceux aujourd'hui qui sont sur la route, qui vont au travail, je pense, le ressentent, voilà. Et tout ça, il faut le changer. Et ce qui me distingue, moi, par rapport à tous les autres candidats de gauche, c'est que moi, je suis candidate pour dire que les travailleurs, ils ont eux-mêmes la force et la capacité de changer cela. Cela dépend de leur lutte collective, cela dépend de leur capacité à s'organiser, à se rassembler et à mettre en avant leurs revendications. Ouais. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Biomérieux, à Lyon, il y a une grève sur les salaires, une grève assez importante qui essaye de s'étendre. Je pense à ceux de Lustucru, je pense à ceux de Dassault, je pense à tous ceux qui se sont battus là ces derniers jours et ces dernières semaines sur les salaires. Eh bien, je pense que c'est la bonne voie. C'est exactement cela qu'il faut faire, parce qu'en fait, il faut s'affronter à ces financiers, il faut s'affronter à ce grand patronat.
Et est-ce que nous serons toujours concurrentiels face à la mondialisation, si on augmente en fait les salaires? Non, mais c'est une question très cash que je vous pose, parce qu'on sait que nous sommes en concurrence aujourd'hui. Un ouvrier que vous défendez à Rodez ou ailleurs est en concurrence aujourd'hui avec un Chinois ou avec un Roumain qui gagne 10 fois moins parfois.
Oui, vous parlez de la fameuse compétitivité. Pour rester compétitif. Mais moi, je ne vous dis pas qu'il faut augmenter les prix des produits. Je vous dis qu'il faut prendre sur les profits et qu'il faut baisser les marges, qu'il faut baisser les dividendes, voire même les réduire à zéro. Donc ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ils peuvent très bien réduire leurs marges bénéficiaires et continuer à être compétitifs, comme ils disent. Ce que je veux dire par là, moi, cette compétitivité...
Mais vous êtes contre la mondialisation ou pas ?
Moi, je suis contre l'exploitation. Je suis contre cette société capitaliste qui fait que ceux qui triment, et ça c'est vrai à l'échelle du monde entier, sont... les éternels sacrifiés. Je suis révoltée. Vous savez, ce discours sur la compétitivité, on le sert aussi aux ouvrières du Bangladesh, qui sont à 120 euros par mois. On leur dit, mais enfin, mesdames, Je ne sais pas si on les appelle mesdames d'ailleurs, j'en doute. Hein. Mais on leur dit, mais écoutez, sans, vous demandez quoi ? 20 euros de plus ? Mais on serait plus compétitif ? On serait... voilà. Donc ce discours-là, c'est un piège. C'est un piège. Alors moi, je le dis, c'est un piège pour que finalement, on se retrouve année après année avec des grandes fortunes encore plus riches, qui amassent désormais mais des fortunes qui dépassent les 100 milliards, hein. Les 100 milliards d'euros, les 100 milliards de dollars. Là, on a le plus riche de la planète. Alors maintenant, si je les confonds, mais c'est Elon Musk. C'est Elon Musk. Il est à 300 milliards de dollars. Ouais. Il y a Jeff Bezos qui lui court derrière avec 200 milliards. Bernard Arnault, il a plus de 100 milliards. On va où, là? On va où? Il y a des riches aujourd'hui qui se baladent dans l'espace. Et les travailleurs, les ouvriers, qui triment du matin au soir. Ou alors ceux qui ont travaillé toute leur vie, parce qu'il faut penser aussi aux retraités, qui peinent à se chauffer, qui peinent à faire leur plein d'essence. Mais attendez, c'est hallucinant. C'est hallucinant.
Emmanuel Macron devrait se déclarer dans quelques jours. Qu'est-ce que vous attendez en fait de sa déclaration et surtout comment vous pourriez juger son quinquennat ?
Écoutez, ouais, je le juge comme le juge tous ceux qui sont mobilisés dans le mouvement des Gilets jaunes, dans le convoi de la liberté là ces derniers temps. Je le juge comme le juge tous les salariés des hôpitaux. Mmh. Hein, c'est-à-dire, c'est un bilan qui est accablant du point de vue du monde du travail. Voilà. Alors, je pense qu'en effet, la grande bourgeoisie, les plus riches, ils ont de quoi être très heureux et très reconnaissants.
Donc la grande bourgeoisie aussi, parce que vous avez dit qu'elle était derrière Zemmour, elle est derrière Emmanuel Macron.
Ah bah en tout cas, Bolloré n'est pas derrière Emmanuel Macron, il est derrière Zemmour.
Bah non, oui.
mais en même temps, il est un peu ingrat, parce que quand même, Emmanuel Macron a fait beaucoup quand même pour ses affaires aussi. Donc,
j'ai l'impression qu'ils ont été en bisbille quand même.
Bien sûr qu'Emmanuel Macron a beaucoup fait pour les plus riches, ça c'est une évidence, et tout le monde le sait. Ça a démarré avec la suppression de l'impôt sur la fortune et puis avec la réduction de tout un tas d'impôts qui ne sont plus payés aujourd'hui par les entreprises. Donc évidemment, pour eux, c'est un bilan très positif.
Oui.
Mais pour tous ceux qui galèrent, y compris qui ne trouvent toujours pas d'emploi, qui ont toujours pas d'emploi, qui ont pu traverser la rue dans tous les sens,
Le chômage a baissé quand même.
Non, le chômage n'a pas baissé. Mmh. Les statistiques de Pôle emploi en catégorie A ont un peu baissé, mais l'ensemble d'ailleurs,
il y a beaucoup de secteurs où on ne trouve pas de main d'œuvre en fait et d'employés, de salariés.
Je tiens à dire que tous ceux qui sont inscrits en Pôle emploi, toutes les catégories confondues, ça ne baisse pas. On est toujours à 5,7 millions de femmes et d'hommes qui cherchent un vrai travail qui leur permette de vivre. Voilà. Alors après, vous parlez donc des emplois non pourvus, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Oui. Bah écoutez, je crois que beaucoup de patrons comprennent que ces emplois non pourvus le sont parce que le salaire, les conditions de travail ne permettent même pas de vivre dignement. Donc voilà, en fait, ils sont eux-mêmes pris à leur propre piège. Hein, le piège, effectivement, des bas salaires et de cette course folle là à la rentabilité, au rendement.
Oui. On y reviendra tout à l'heure, puisque vous êtes avec nous jusqu'à 9h, mais il y a encore deux questions aussi d'actualité. L'Ukraine, votre positionnement face à la Russie de Poutine ?
Alors, moi, d'abord, dans ce conflit, je pense aux populations. Je pense que les populations, elles sont piégées, mais vraiment piégées. Elles sont prises au piège d'un conflit qui est pas du tout le leur, en fait. Et ce qui me touche, me révolte, c'est de me dire que des femmes et des hommes qui vivaient ensemble, mais vraiment ensemble, entremêlés même, hein, russophones, donc ukrainiens, qui étaient mariés, qui avaient de la famille, voilà, qui étaient mélangés, leurs voisins sont en train de se déchirer et sont poussés les uns les autres à finalement se ranger dans un camp et qui sont poussés à la haine nationaliste. Et ça, vous voyez, c'est le fruit de quoi ? C'est le fruit des rivalités entre les grandes puissances. Et moi, je pense que le conflit, il incombe d'abord et avant tout, en fait, au jeu des Américains et de l'OTAN. De l'OTAN qui n'est pas du tout une agence de paix, qui est une alliance militaire qui avait été d'ailleurs construite contre l'Union soviétique et puis qui ne sait pas autodissoute quand l'Union soviétique a éclaté. Non, qui est restée et qui continue effectivement d'établir une série de bases militaires aux portes de la Russie.
Et donc Poutine a raison de réagir dans ces conditions.
C'est un jeu, c'est évidemment chacun veut marquer son territoire, chacun veut avancer, c'est une guerre économique, une guerre d'influence, et ça c'est vraiment
comme à l'époque
inscrit.
De Trotsky.
Alors on mélange absolument tout, mais c'est une guerre économique, mais c'est inscrit vraiment au cœur du capitalisme. C'est ça la concurrence aussi. C'est des rivalités économiques qui sont prêtes à dégénérer en guerre tout court. Et les victimes de tout cela, c'est les populations qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien demandé et qui sont toujours plongées davantage dans la misère.
Oui, encore une question d'actualité, on marquera une petite pause et vous resterez avec nous. Il y a eu ce dramatique accident mortel de chasse ce week-end. Quelle est votre position, vous ? Est-ce qu'il faut réglementer en fait de nouveau la chasse, voire l'interdire, comme le demandent certains ?
Je ne veux pas trop m'attarder sur ce sujet, mais c'est sûr que c'est grave. La mort d'une jeune fille, 25 ans. En plus, la chasseuse avait 17 ans. C'est deux vies là qui sont brisées. Et oui, sans doute qu'il faut réglementer. Et alors, il y a un problème là de montée en puissance de ces armes à feu. Voilà. Donc moi, je crois que tout ça, c'est sûr qu'il faudrait intervenir.
Un nouveau cadre, oui. Peut-être. Oui. Merci Nathalie Arthaud. Vous restez avec nous, porte-parole de Lutte Ouvrière, candidate à l'élection présidentielle. Vos appels 0826-300-300. Vous avez des questions à poser directement à Nathalie Arthaud. Eh bien, elle est là pour répondre et elle répondra aussi à nos journalistes et éditorialistes.
Restez avec nous, les 8h31.
Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h44 ce matin. Notre invitée Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière et candidate à l'élection présidentielle. Et vos appels 0826-300-300 et direction le Lot-et-Garonne avec Fatima. Bonjour Fatima.
Bonjour Fatima.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick et bonjour Nathalie.
Bonjour.
Votre question, oui.
Ma question ce serait, qu'est-ce que vous auriez fait à la place du gouvernement, premièrement? Et après, est-ce que vous pensez qu'il faut lever le pass vaccinal de suite?
Bon, c'est la gestion de la crise sanitaire, quoi. Donc, sur le pass vaccinal.
Ce que j'aurais fait, si la société avait été dirigée par un gouvernement au service des travailleurs, il y aurait beaucoup de choses qui se seraient faites différemment. D'abord, je tiens à dire que les hôpitaux publics seraient pas dans l'état que l'on connaît aujourd'hui. Ils seraient pas gérés comme des entreprises. Déjà, ça c'est une première chose. Et puis, ces fameux laboratoires qui encaissent aujourd'hui des milliards et des milliards avec les vaccins, ils auraient été forcés à briser à lever leur brevet. Donc bon, il y aurait eu beaucoup de choses qui auraient été gérées de façon différente, et en particulier bien sûr qu'on se serait employé à protéger les travailleurs, parce que moi c'est ce qui m'a frappé dans cette pandémie, c'est que, et c'est pas un hasard, les quartiers ouvriers sont les plus touchés parce que ce sont eux qui n'ont jamais pu se confiner, qui sont allés bosser, qui ont fait tourner la baraque, ils sont tombés malades, y compris dans la période où il n'y avait pas le vaccin, et beaucoup en sont morts. Donc il y a une surmortalité dans les classes populaires avec cette pandémie. Donc ça aurait été d'abord la priorité, protéger effectivement les salariés et pas attendre pour fermer. Donc ça c'est une première chose. Quant à
Au
pass vaccinal. Moi, j'ai toujours été opposée au pass sanitaire ou au pass vaccinal, parce que je pense que c'est pas comme cela qu'on peut soigner correctement. C'est pas en contraignant, c'est pas à coup de trick qu'on peut soigner. Il faut aller convaincre. Alors, je pense que ce gouvernement, le problème, c'est qu'il a du mal à convaincre parce que il y a cette défiance. Parce que pour beaucoup, il n'est pas au service de la population. Voilà. Donc, il y a ce fossé-là qui l'empêchait. Mais en tout cas, moi, je pense que il aurait fallu mettre en place des équipes mobiles, des équipes de ville pour aller vers les plus éloignés de la population, les convaincre, s'appuyer sur les associations, s'appuyer sur le milieu dans lequel ils évoluent, aller aussi vers ceux qui vivent dans les déserts médicaux, parce que c'est un vrai problème encore pour beaucoup. On le sait même pour les anciens qui ont eu du mal à se faire vacciner, et donc il y aurait eu
Sur les déserts médicaux, est-ce que vous seriez favorable justement à ce que les jeunes médecins aillent obligatoirement sur le terrain dans ces endroits où il y a moins de médecins?
Je pense qu'on pourrait gérer les choses comme ça. Bon, moi, je suis enseignante, vous savez. Ouais. Quand on est enseignant, on ne choisit pas le lieu,
son lieu de travail.
Voilà, on est muté. Donc, alors, c'est pas un super super système. Voilà, parce que souvent, on ne s'en prend même pas en compte le fait qu'on est marié, qu'on a des enfants, etc. Enfin, moi, je connais des collègues qui sont séparés de toute leur famille, hein, et ils travaillent à 600 km de leur famille. Donc, c'est un vrai problème. Mais je pense qu'il y aurait effectivement beaucoup de choses à faire pour inciter les médecins.
C'est ça, un système qu'on gère comme ça, où on décide en fait par l'État. C'est ce que vous défendez plutôt, Nathalie Arthaud.
Oui, mais je pense qu'il y a des choses justement à faire pour que les choses se passent bien et qu'on puisse prendre aussi en compte la vie de famille et que ça ne soit pas non plus, la schlag qui tombe comme ça.
Oui. Merci donc Fatima pour votre question et puis les réponses donc très claires de Nathalie Arthaud. D'autres questions dans un instant au 0826-300-300 ainsi qu'avec nos journalistes et éditorialistes. Question avec vous Cécile avant Arlette là, Chabot.
Oui, vous le disiez, vous êtes enseignante. Aujourd'hui, l'enseignement et la politique ne font pas toujours bon au Moyen-Âge. Vous êtes enseignante en économie. Comment préserver la neutralité dans vos cours, justement?
Je fais mon travail. Exactement comme les journalistes qui doivent rester neutres dans leurs interviews ou dans la présentation de l'actualité. Voilà, je le fais de façon professionnelle, voilà. Et j'ai quand même cet avantage que ce métier est aussi un métier qui où il faut développer l'esprit critique, hein,
oui.
Et des jeunes et des élèves. Donc,
vous parlez politique parfois dans vos...
Non, il y a des débats qui peuvent naître, mais encore une fois, c'est justement j'appelle les élèves à la réflexion. Mais vous savez, bon, les élèves qui m'ont comme prof, ils savent ce que je suis, ils savent ce que je défends quelque part. Au moins, c'est carte sur table, vous voyez, parce que tous les enseignants ont des idées, exactement comme tous les journalistes. Hein, oui. Ils ont des idées, ils votent, ils ont un parti, ils ont exactement.
Tous les enseignants n'ont pas un parti où ils votent.
En tout cas, un parti de cœur, c'est ça que je veux dire, cœur, ils votent, ils ont des idées politiques, etc. etc.
Mais vous êtes persuadée de ne jamais orienter sur l'économie?
Écoutez, moi je pense que forcément, on est ce qu'on est, on est ce qu'on est, et on exprime un certain nombre de choses, mais vous savez, là, si c'est toute la société, hein, toute la société qui influence et qui conditionne dans un sens. Et quel est ce sens? C'est l'individualisme, c'est le carriérisme, c'est le chacun pour soi, c'est la sélection, c'est cette fameuse méritocratie, hein, où on fait croire que plus on travaille, mieux on réussit. Ce qui est faux, c'est le contraire de la réalité. Alors moi peut-être que j'exprime...
La méritocratie, ça existe quand même. Sinon, vous allez inciter les gens à ne pas travailler.
De ces grandes familles, de ces grandes dynasties qui fêtent leurs 200 ans, là, par exemple.
Il n'y a pas que les dynasties. Nathalie Arthaud, est-ce que, par exemple, vous avez eu un élève qui, un jour, est devenu grand patron et qui vous a envoyé, en fait, un petit mot pour vous dire écoutez, je suis devenu quand même grand patron, quoi?
Eh bien, non, je n'en ai pas eu. Peut-être cela existe-t-il. Mais vous savez, on peut toujours tirer le bon numéro, hein, dans cette société. Vous savez, il y en a même qui gagnent au loto. Hein. Donc, on peut toujours tirer le bon numéro, mais c'est sûrement pas ça. Moi, en tout cas, pour moi, une société digne et véritablement humaine, c'est pas cette société où quelques-uns peuvent tirer le bon numéro. C'est qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes qui appartiennent à la classe productive, je parle des salariés, mais je parle aussi de ces fameux auto-entrepreneurs, de ces indépendants, de ces petits patrons, etc. Eh bien, bien souvent, quand ils bossent, ils n'arrivent pas à vivre dignement. Ils n'arrivent pas à vivre dignement, ils ne peuvent pas accéder même à un certain confort. Vous savez, aujourd'hui, les vacances, prendre des vacances, ça reste le privilège encore d'une certaine couche de la population.
Prendre des vacances, mais être en vacances, non. Parce que,
oui, c'est ça. On peut être en vacances, tout à fait.
Parce que prisonnier
de sa cité, de ses quatre murs.
Quand on regarde dans le monde entier, en fait, c'est probablement nous qui avons en France, effectivement, le plus de vacances.
Oui, mais c'est pas avoir des vacances, c'est prendre. Voilà.
Il n'y a pas que les gens dans les cités qui peuvent prendre des vacances, enfin, qui ne peuvent pas prendre de vacances.
Non, mais justement, oui, tout à fait. Mais vous voyez, donc voilà, quand aujourd'hui, ceux qui travaillent, ceux qui font tourner la société, ceux qui nous soignent, ceux qui nous transportent, ceux qui nous permettent de nous nourrir, en sont à compter chaque euro. Moi, je vois les gens, mais ils remplissent leur caddie que en calculant quel bon promo utiliser, à quelle date, et en dépensant leur point fidélité. Mais on est où là? On est où? Quand vous avez des familles qui disent, je vais chauffer juste la pièce des enfants, Mais attendez, on en est là aujourd'hui. Ouais. Alors même que ce sont eux qui, encore une fois, qui portent la société. Et c'est ça la réalité. Ouais. Alors je veux bien qu'on mette en avant la réussite d'un self-made man. Mais franchement, c'est des millions et des millions de salariés qui doivent revendiquer leur dû dans cette société. Et moi, je peux vous dire que c'est cette politique-là que je porte.
Allez, question avec vous, Arlette Chabot.
On a prononcé le mot patron. Le MEDEF aujourd'hui reçoit un certain nombre de candidats. Je ne suis pas sûre qu'il vous ait invité.
Non.
Alors en admettant qu'il vous ait invité, quel serait le message que vous auriez envie de leur transmettre ?
Non, je n'ai pas été invitée. Et moi, j'ai envie de m'adresser d'abord aux salariés, hein, d'abord
pas au patron,
aux travailleurs.
Pas un truc à
mais qu'est-ce
dire.
Que vous voulez que
on
je leur
de
dise
vous entendre. Bah, je ne sais pas, voilà, les règles du jeu. Si j'arrive au pouvoir demain, voilà quelles seront les règles du jeu.
Mais
ou pas que... de jeu, d'ailleurs.
Mais... Bon, d'abord, si j'arrive au pouvoir demain, je pourrais peut-être arriver au pouvoir un jour, mais ça nécessitera des luttes sociales et des bouleversements sociaux. Hein. Donc moi, je ne vais pas jouer non plus. C'est pas un jeu de rôle.
Ben
moi, je défends une politique dans cette campagne, mais encore une fois, moi, toute ma politique, c'est de m'adresser aux travailleurs, aux travailleuses et aux travailleurs, et c'est de leur dire finalement, vous avez vous-même entre les mains la possibilité de changer votre sort. Voilà, vous pouvez faire les choses, vous pouvez vous organiser, faire pression et faire avancer, mais mille fois mieux vos intérêts que par, y compris en votant pour un tel ou pour un tel. Parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Les droits sociaux, les avancées sociales, de meilleurs salaires, y compris la réduction du temps de travail, ça a été le fruit des luttes collectives, d'un rapport de force. Et moi, c'est cela que je porte dans cette campagne. Mmh. C'est d'abord ça que je porte. Alors après, le patronat, le MEDEF, il sait très bien ce que revendiquent les salariés. Mmh. Ils se réunissent, mais du matin au soir. Ils font des réunions, en veux-tu, en voilà. Ils savent que les salariés, ils veulent des augmentations de salaire. Ils les donnent ? Non, ils ne les donnent pas. Ce sont des miettes. Et c'est même pas l'inflation, parfois. C'est même pas l'inflation qu'ils proposent, vous vous rendez compte ? Donc ça, vous savez, quand on est salarié, là, je pense à la grève qu'il y a eu à la RATP, dernièrement. Quand on est salarié, on sait que c'est pas de se mettre autour de la table avec le patron. Hein. C'est donc, le rapport de force, c'est la bataille, c'est la bagarre.
Juste un mot, vous n'avez rien à dire au patron, ça j'ai compris. Le quoi qu'il en coûte n'a profité qu'aux entreprises, ou il a quand même profité aux salariés ?
Il a surtout, bien sûr, profité aux grandes entreprises. Aux grandes entreprises.
Pas ça, les salariés, ça, c'est sûr. Ils n'en ont pas bénéficié, ça a évité des fermetures d'entreprises.
Encore heureux que les salariés empêchés de travailler, on leur a donné de quoi payer leur loyer et de quoi se nourrir. Encore heureux. Hein, voilà. Mais vous savez, beaucoup de salariés ont perdu. Mais ils ont perdu énormément pendant le confinement. Parce que ce fameux chômage partiel, d'abord, c'était pas les 100%. Et en plus, vous avez vu les primes qu'il y a maintenant, qui sont versées pour justement mettre un peu de beurre dans les épinards. Mmh. Tout ça, c'est tout
vous
ça.
Vous êtes anti-prime aussi.
Mais moi, je suis pour des augmentations de salaire. Parce que ces primes-là, je tiens à le dire, ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Mais en fait, c'est l'alibi pour ne pas augmenter les salaires de base. Et le problème, c'est que quand on se retrouve en maladie, il n'y a plus de primes. Quand on se retrouve à la retraite, regarde, comment est calculée la retraite ? Sur le salaire de base. Ouais. Et moi, je connais des millions de gens, et des femmes en particulier, qui pleurent quand elles découvrent le niveau de leur pension de retraite. Donc ces primes, c'est un véritable piège. Un piège pour ne pas augmenter les salaires. Et ça, on en crève.
Ouais. Nathalie Arthaud, autre question au standard. 0826-300-300. Qui est avec nous ? C'est Jean, je crois.
Jean, bonjour.
Jean,
oui,
bonjour.
Bonjour, oui.
Bonjour, Jean. Posez votre question. Oui,
d'abord, je m'amuse beaucoup d'écouter toujours les discours qui datent d'Arlette Aguillet et qui continuent à être les mêmes. Je trouve que Nathalie Arthaud vit dans un autre monde. Je suis pendant la même France qu'elle. J'ai été apprenti, j'ai été commis, j'ai été salarié, j'ai été restaurateur. J'ai commencé à 14 ans, j'ai amené 63. Et je pense que je vis dans un pays où les salariés ont une super protection et qu'il faut arriver à des situations extrêmement graves, excessivement graves, pour qu'un salarié puisse gagner au prud'homme. Donc je pense que vous ne vivez pas dans le même pays que moi, donc vous bouffez du patron, vous bouffez du riche, c'est votre... Enfin bon, je suis tranquille, vous êtes à 0%. Et moi je ne comprends pas pourquoi vous continuez à vous présenter, parce qu'aujourd'hui, franchement, vous êtes encore pire que les communistes, pire qu'encore que les soviets, et bon, je pense que vous êtes complètement à l'arnage. Donc vous êtes en plus enseignante, donc vous êtes dans un milieu hyper privilégié en tant que salarié, en tant que vacances, bien sûr. Enfin, vous débitez des choses que je vous écoutais, je trouvais ça hallucinant de qu'on puisse en 2022 encore parler comme ça.
Apparemment, on n'est pas dans le même monde.
Jean, elle va vous répondre sur pourquoi elle se présente, justement. Oui. Puisque c'est ça, avec votre réflexion, hein, évidemment.
Non, mais apparemment, on vit pas dans le même monde, ou en tout cas, vous n'avez pas envie de regarder, le monde des classes populaires.
Il vient des classes populaires.
Hein, oui, il le vient, mais justement, il l'a quitté, manifestement, il lui tourne le dos et voilà, il veut pas voir que aujourd'hui encore il y a des travailleurs pauvres. Voilà, pauvres, mais pauvres qui doivent être. Et vous savez, c'est quand même assez. Quand on voit que le gouvernement s'est dit, il faut qu'on aide les gens à faire leur plein, on va leur faire un petit chèque énergie de 100 euros. Quand on voit un gouvernement qui dit qu'il faut une prime d'activité, quand on voit le gouvernement qui explique, les APL, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le gouvernement reconnaît, avoue, que les salaires ne permettent pas de se loger, de se nourrir, de faire son plein d'essence. Il le reconnaît lui-même, c'est pas Nathalie Arthaud qui le dit, c'est le gouvernement qui le reconnaît lui-même. C'est la politique de l'aumône. Alors moi, je porte cette idée que les travailleurs, ils ne demandent pas la charité, ils ne veulent pas être aidés pour se loger, pour se nourrir, ils veulent pouvoir vivre de leur salaire. Et c'est quand même la moindre des choses. Je suis désolée, mais quand leur travail y permet à une minorité d'engranger des milliards et des milliards, mais c'est le cas. On m'accuse d'être caricaturale, mais ce sont les inégalités aujourd'hui qui sont caricaturales. Ouais. C'est quand même de la folie. Ouais. C'est de la folie. Vous savez quand même, bon, c'est l'homme le plus riche du monde, je vais prendre l'extrême, mais quand même, c'est significatif. Il encaisse 3,8 millions d'euros par jour au titre des dividendes de 2021. Ça fait du 2 SMIC à la minute. Alors vous pouvez me dire comment on arrive, et c'est là j'en prends un, mais on pourrait prendre Muliez, on pourrait prendre les grandes familles, les grandes fortunes. Mais vous vous rendez compte, il y a de l'argent qui dégouline à un pôle, l'argent, et ceux qui la portent, moi je n'accepterai jamais que des ouvriers qui sont dans les abattoirs, dans les usines d'agroalimentaire, dans l'usine de l'automobile, dans l'énergie, que les aides-soignantes, que les facteurs, que les soient dans l'angoisse. Dans l'angoisse de ne pas réussir à remplir leur frigo demain. Ouais. Voilà, cette société-là, je peux vous dire qu'elle ne mérite pas. Elle n'a pas d'avenir, d'abord, elle n'a pas d'avenir. Alors voilà.
Bon, un dernier mot, Nathalie Arthaud.
Il y en a toujours qui, bien sûr, passent entre les gouttes, qui arrivent à s'en sortir, qui sont heureux de vivre.
C'est un peu la méritocratie, on ne va pas revenir dessus aussi.
Faire leur petit cocon, etc. Ouais. Ils arrivent comme ça à se mettre des œillères, etc. Mais le monde, notre monde, il est comme ça. Ouais. Il est comme ça. Et c'est ce qui crée aussi toutes ces frustrations, ces humiliations, cette violence aussi que porte la société. C'est le fruit de tout ça. Moi, ce n'est pas dans cette société là que j'ai envie de vivre.
Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas, dernière question, pas prête à répondre par exemple à un appel de l'Union de la gauche, quand on voit l'état de la gauche dans les intentions de vote en fait aujourd'hui? Est-ce que vous seriez prêt à vous réunir?
Non, parce que moi je n'aspire pas à la gérer, cette société capitaliste. Je ne veux pas la gérer, je pense qu'elle ne peut pas fonctionner bien
pour
le monde
pour
du travail.
Quoi.
Parce que elle est fondée sur l'exploitation. Parce que elle ne fonctionne bien en fait que pour ceux qui ont des capitaux, qui ont de la richesse. Donc moi, cette société-là, je veux la changer.
Donc la gauche, elle n'est pas là pour être aux affaires, finalement, si je vous écoute.
La gauche gouvernementale, elle aspire à aller aux affaires. D'ailleurs, elle l'a fait, mais constatons qu'à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, elle a mené une politique qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à celle de la droite.
Et
elle
vous
a
voulez
tapé,
pas y aller, vous
tapé sur les travailleurs. Non, pas dans. Non, ce que je veux, c'est que les travailleurs, eux-mêmes, ils prennent finalement les choses en main, qu'ils prennent le pouvoir. Moi, j'aspire à ça. Et vous savez, il posait la question, pourquoi alors que je fais 0,4, 5 ou 0,6% et parfois dans certaines élections même plus, pourquoi je me présente? Eh bien, je me présente parce que je sais que ce que je porte, les idées que je porte, eh bien, ça conforte tous ceux qui ont envie de se battre, tous ceux qui ne se résignent pas, tous ceux qui cherchent à s'organiser et à se défendre pour leurs conditions de travail, pour leur salaire, pour leur retraite, pour l'accès aussi à la santé. Donc ça les conforte dans leur combat et c'est ça l'essentiel. Parce qu'en fait, les choses, elles changent ainsi, par les luttes et par les rapports de force. Donc voilà, moi encore une fois, moi je suis candidate pour dire notre sort ne changera pas par les urnes. mais il changera par nos propres mobilisations. Donc oui, je porte cette politique-là.
Voilà, merci Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière et candidate à l'élection présidentielle. On a débordé un petit peu, mais c'est normal. Quand on est dans un petit déjeuner présidentiel, dans quelques minutes, on retrouvera Éric Revel. Revel en campagne sur les cabinets de conseil. Derrière, on en a beaucoup entendu parler, et là, on va l'évoquer en fait de nouveau.
Restez avec nous, il est 9h02.